Hello, je suis Aurélie Gillard, ton hôte sur Tech Lipstick, le podcast des femmes qui conquièrent la tech. Tous les 15 jours, rejoins-moi pour une conversation avec des femmes inspirantes, qu'elles soient entrepreneurs, ingénieurs ou salariées dans une start-up tech. Nous échangeons sur leur parcours et sur les challenges que nous rencontrons tous dans le monde du travail d'aujourd'hui, et particulièrement en tant que femmes dans la tech. Nous en apprendrons plus aussi sur les différents secteurs de la tech, les opportunités et les challenges de cette industrie. Merci de ton soutien en t'abonnant à cette émission. L'épisode du jour, c'est le début d'une série sur l'intelligence artificielle pour laquelle je vais recevoir des femmes exceptionnelles. Et la première d'entre elles met cette technologie au service du développement et de la fidélisation des talents. J'ai nommé la très talentueuse Ella Atmani qui me fait l'honneur de venir à ce micro. Bonjour Ella et bienvenue.
Bonjour Aurélie, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui.
Eh bien, bienvenue, ravie de t'avoir à ce micro. Tu es la cofondatrice et CEO de Palm, une start-up de la HRTech, dont nous allons reparler en détail, bien sûr. Tu as une formation d'ingénieur et également un MBA de la Sorbonne. Tu as démarré ta carrière dans le conseil où tu as passé une dizaine d'années. En 2018, tu as fait le pas de l'entrepreneuriat, on y reviendra peut-être, pour créer une première entreprise avant de lancer Palm. Ton combat, c'est d'aider les entreprises à garder leurs talents. Et pour ça, tu mets à leur disposition une solution construite avec de l'IA. Donc, on va parler de tout ça. Juste pour dire que Palm fait partie des 40 jeunes pousses les plus prometteuses de Station F. Et avec tes cofondateurs, vous avez levé 2 millions d'euros en mars 2023, si je ne m'abuse.
Top, également. Tout est juste.
Tout est juste. OK, cool. J'ai bien préparé mon truc. Tu es membre collectif Sista, donc ça c'est important, et du Hub IA France. Bon, avec tout ça, je pense que tu as des journées bien remplies. Est-ce que tu as autre chose à partager avec notre audience, des infos personnelles ou professionnelles que tu veux rajouter?
Non, écoute, tu as fait un super résumé de mon parcours pro et aussi une partie de mes engagements. Effectivement, à la fois d'un point de vue professionnel, enfin, tu as présenté évidemment l'essentiel. Ce que je peux simplement rajouter, c'est que moi, je suis arrivée en France à l'âge de 20 ans. Et effectivement pour les études évidemment et quand je regarde un peu dans le rétro et je me dis qu'est-ce que j'ai fait depuis, bah finalement j'étais dans une école d'ingé et je faisais partie des 10% de filles qui étaient dans cette promo, et puis ensuite j'ai intégré le monde du conseil en stratégie. Évidemment, il y avait des trajectoires de carrière sur lesquelles on pouvait, dans lesquelles on pouvait se projeter, mais il y avait très peu de femmes finalement tout en haut de la pyramide. Et puis ensuite dans l'entrepreneuriat, pareil, je rejoins un univers qui est sur lequel il y a toutes les études, on va pas les refaire si ça fait un travail assez exceptionnel sur en tout cas éveiller les consciences sur les chiffres. Et comme dit Tatiana, il faut compter les femmes pour qu'elles comptent, et on est très peu nombreuses à se lancer, très peu nombreuses à être encore financées, et encore plus dans des contextes de compliqués et de crise comme on le vit depuis l'année dernière. Donc oui, voilà, je dirais que dans mon parcours, j'ai fait partie des minorités plein de fois, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, j'ai un engagement personnel. C'est une cause qui me touche à cœur, la diversité, l'inclusion, la mixité, et c'est des choses qu'on s'impose à la fois au sein de Palm, de l'équipe, mais aussi dans notre solution qui est basée encore une fois sur l'IA. Et on sait que l'IA peut parfois être prendre des décisions pas hyper cool.
Ouais, c'est clair. Alors, je voudrais justement te poser une question là-dessus, mais peut-être avant, pour que chacun comprenne en fait ce que tu proposes à travers cette solution, est-ce que tu peux revenir sur à quoi elle sert et comment elle fonctionne concrètement en fait du côté des salariés et du côté de l'entreprise?
Bien sûr. En fait, aujourd'hui, il y a énormément d'études qui ont été faites à l'échelle mondiale et qui ont démontré que les collaborateurs que les entreprises, par exemple, recrutent ce mois-ci vont quitter celle-ci dans les 18 à 24 mois. Et en fait, la raison pour laquelle ce taux de turnover, donc qui atteint 50%, est juste énorme, c'est parce que les collaborateurs déclarent avoir manqué à la fois d'équité, de transparence et de visibilité sur les opportunités de développement. Ce chiffre, il est juste extrêmement élevé. Quand on regarde en face les efforts que font les entreprises, les équipes RH, les managers pour attirer des talents, les recruter par tous les moyens dans un contexte quand même qui est extrêmement compliqué en termes de recrutement de talents, en fait, on se dit les entreprises remplissent finalement un panier percé. Et l'idée de Palm, c'est de dire bah, on peut plus aujourd'hui ne rien faire, gérer les collaborateurs dans des fichiers ou des outils qui sont statiques ou qui ne communiquent pas. L'objectif de Palm, c'est d'accompagner les entreprises à, un, devenir des entreprises qu'on appelle skills-based, donc basées sur du management par la compétence, ce qui permet en effet d'avoir un socle commun, un langage commun à l'échelle de toute l'entreprise, à l'échelle de tous les collaborateurs et de tous les managers, pour évaluer tout le monde de la même façon et offrir, en tout cas mettre un maximum de transparence et d'équité dans les opportunités de développement. Et donc, ce qui a évidemment comme vertu de pouvoir répondre aux attentes des collaborateurs en termes d'équité, de transparence et de visibilité. Et puis, de l'autre côté, on se dit que finalement, les entreprises qui vont pouvoir accompagner leurs collaborateurs vont, pour être performants, vont être plus performantes d'un point de vue opérationnel et donc forcément business. Avoir des collaborateurs formés au niveau qu'on attend d'eux, sur les compétences qu'on attend d'eux sur leur job, c'est un élément clé pour que pour mettre les talents en condition de réussite et donc de performance et d'engagement global. Et puis évidemment, si on peut les aider aussi à fidéliser leurs collaborateurs, bah, ça permet de créer un cercle vertueux à l'échelle de l'entreprise et d'aligner, parce que c'est quand même la priorité numéro une hein, des entreprises, d'aligner finalement la stratégie des besoins business avec les besoins et les aspirations des collaborateurs.
C'est hyper intéressant. Juste pour situer l'enjeu, un recrutement en moyenne, ça coûte combien?
Alors, en tout cas, pour situer effectivement l'enjeu sur la partie turnover, il y a énormément d'études qui ont démontré que un collaborateur qui quitte l'entreprise, le coût de son départ, il est de une à six fois son salaire.
C'est des centaines de milliers d'euros, en fait,
C'est
qui...
énorme. Voilà.
C'est
Et
énorme, c'est clair.
chaque année sont perdus. Et en effet, l'objectif de Palm, c'est d'aider les entreprises à optimiser, en tout cas réduire ce taux de départ et réduire ce coût, évidemment, pour l'investir pour le développement des collaborateurs.
Et alors, du coup, du point de vue du collaborateur, justement, le bénéfice pour lui, c'est quoi? Parce que, bon, je sais que les professionnels, enfin, les gens sont très sensibles au fait de se former tout au long de leur carrière. J'ai vu un truc il n'y a pas longtemps là-dessus qui disait que 90% des salariés, des actifs, pensaient que c'était important de se former tout au long de sa vie. C'est peut-être un peu différent, d'ailleurs, formation, compétences. Je t'embarque peut-être sur un truc qui n'est pas tout à fait le sujet, mais en tout cas, quand ils utilisent Palm, c'est quoi le bénéfice pour eux?
C'est une super question, Aurélie, parce que pareil, quand on regarde les études qui ont été faites sur le sujet, par LinkedIn, par ADP, par énormément d'acteurs qui ont fait ça à l'échelle globale, en fait, LinkedIn notamment a interrogé les collaborateurs qui ont quitté leur entreprise. Et 98% des répondants, donc des collaborateurs qui ont répondu, ont déclaré qui seraient restés plus longtemps au sein de leur entreprise si celle-ci avait investi sur le développement de leurs compétences et leur employabilité. C'est quasiment 100%. Donc c'est là où on voit qu'effectivement les entreprises ont un levier qu'elles n'exploitent pas suffisamment aujourd'hui pour fidéliser et développer les collaborateurs. Évidemment, le collaborateur, qu'est-ce qu'il gagne? Ben, un, on permet de mettre de la transparence et de l'équité, c'est-à-dire que chaque personne va pouvoir avoir une visibilité sur son portefeuille de compétences, les compétences qu'il ou elle maîtrise au niveau qu'on attend d'eux, de pouvoir aussi avoir en toute transparence les compétences sur lesquelles la personne doit encore se développer, tout en mettant évidemment en face les actions que l'entreprise propose pour accompagner les collaborateurs, vont pouvoir aussi se voir proposer des opportunités de développement, donc soit de la formation, soit des projets internes, soit du mentoring, du coaching interne, voilà tous les leviers qui leur permettent de se développer et évidemment de pouvoir leur proposer des trajectoires de carrière. Et moi, que je dis souvent avec Palm. Finalement, un, on met en lumière et on révèle parfois des pépites chez nos clients, et ce sont nos clients qui nous le disent. Voilà, bah, grâce à Palm, j'ai découvert des talents, des pépites auxquelles je n'avais pas forcément pensé comme ça en première approche. Et puis de l'autre côté, de pouvoir proposer des opportunités auxquelles les collaborateurs eux-mêmes n'ont pas forcément pensé ou auxquelles, voilà, ils se disent je peux pas y arriver. Bah, en fait, c'est aussi une grande valeur ajoutée qu'on espère apporter aux travailleurs en France et en Europe.
Ça, je m'imagine bien que ça serve bien la cause des femmes, parce qu'en fait,
oui,
c'est prouvé souvent, les jeunes femmes ne se postulent pas, tout simplement, ne vont pas chercher les opportunités,
oui,
parce qu'elles pensent qu'elles ne remplissent pas 100% des compétences nécessaires. Enfin, c'est quelque chose de bien connu. Tu le vois, ça, vous avez un moyen de le voir et de le mesurer.
En effet, nous, ce qu'on permet via la plateforme, c'est voilà, de vraiment d'évaluer tout le monde sur un référentiel commun. C'est-à-dire que si on prend, je prends un job comme ça, un product owner dans l'équipe A et un product owner dans l'équipe B, ben, de manière globale, ces deux personnes, qu'ils soient un homme, une femme, vont avoir un référentiel d'évaluation qui va être commun. Et évidemment, ça permet aussi de donner confiance à ceux qui vont sous-estimer leurs compétences, mais aussi un peu de raison à ceux et celles qui vont surestimer leurs compétences. Donc, ça permet aussi de balancer les deux parties. Aujourd'hui, nous, dans Palm, dans l'algorithme de matching, pour éviter de tomber dans des biais de décision de l'IA, justement parce que l'IA apprend, et donc si on met si on regarde les personnes qui vont postuler en identifiant le genre dans le profil de la personne, bah forcément l'IA va apprendre que les hommes vont postuler plus souvent, vont avoir des postes de direction plus souvent, et donc va être biaisé. Ce qu'on a fait volontairement dans la solution, et ça c'était un choix de Marc, notre directeur technique, c'était d'enlever dans les algorithmes de matching le biais du genre. Donc on l'algo est complètement neutre vis-à-vis du
D'accord.
genre.
D'accord. Ah oui, c'est intéressant ça. Donc vous avez choisi de ne pas corriger dans l'autre sens, mais simplement c'est quelque chose qui n'apparaît pas, et du coup vous n'avez pas, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas de moyen d'analyser exactement après coup. Ce qui s'est passé, si, puisque vous voyez bien qui est sélectionné au final.
Oui, bien sûr, bien exactement.
D'accord.
Exactement.
Ouais,
ok. Oui, exactement.
Je voulais revenir justement sur cette partie algorithme. Vous avez fait beaucoup de recherche et développement là-dessus. Est-ce que tu peux préciser un petit peu le champ en fait d'application?
Bien sûr. En fait, pour clarifier ça et pour avoir un discours effectivement simple là-dessus, l'IA de manière générale, de toute façon, c'est les solutions et les logiciels qu'on voit sur le marché, ceux qui intègrent une brique d'IA et donc d'apprentissage, c'est tout le temps et souvent d'ailleurs des briques multimodales. Ça veut dire quoi multimodal? Comme la voiture finalement, on a dans une voiture, ben on a le moteur et puis après on a les roues et on a le capot et on a les sièges. Et très souvent, ben en fait, le constructeur automobile va développer les éléments clés et va peut-être aussi utiliser des choses qui existent sur le marché pour constituer le produit final. Ben en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous, on a notre cœur technologique d'IA, donc qui apprend, qui existe à plusieurs niveaux dans la solution, dont on est propriétaire. On a 3 années de R&D en IA et en RH avec des PhD avant de lancer Palm sur le marché. Et on continue évidemment encore aujourd'hui à faire de la R&D sur le sujet. Donc, on a en effet des algos à la fois qui traitent, qui analysent grande masse de données, qui permettent de visualiser, d'extraire les données et de les présenter, et qui permettent aussi de faire le matching et qui permettent d'apprendre. Donc ça, c'est la couche, une des couches, par exemple. Et puis après, on a rajouté des règles, ce qu'on appelle nous des règles déterministes aussi, hein, qui permettent de contrôler ce que fait l'IA. L'IA, parfois, peut se tromper.
Absolument, oui. Est-ce que l'arrivée de ChatGPT qui ouvre finalement au grand public la possibilité d'utiliser un langage, un LLM, est-ce que ça constitue pour vous un changement dans votre business ou pas? Alors,
évidemment, le ChatGPT, et quand c'est arrivé sur le marché, c'était juste incroyable parce que ça permettait tout de suite de faire comprendre au grand public ce que fait l'IA. Enfin, c'est le fait de parler à une IA et de voir comment elle réagit, de chatter avec une IA. En fait, c'était juste exceptionnel pour que tout le monde puisse comprendre ce que fait l'IA, qu'est-ce qu'elle est capable de faire, comment, ainsi de suite. Donc, c'est un cas d'usage, en tout cas, qui a permis de démocratiser l'accès à l'IA. Donc, au contraire, c'est super parce que c'est venu aussi démontrer que l'IA, en fait, c'est faire des choses. C'est pas juste de la tarte à la crème où tout le monde dit je fais de l'IA et en fait, il y a pas, et personne comprend ce que c'est une boîte noire. Donc, au contraire, moi, je trouvais que c'était super quand c'est arrivé sur le marché et puis d'un coup, tout le monde commence à s'intéresser à l'IA, les RH, les directions générales. Nous, on voit chez certains de nos clients, ils disent, en fait, il faut qu'on lance des projets IA partout. Et donc forcément, ça crée un environnement qui est plutôt propice au business. Effectivement, ChatGPT, comme ça a des usages qui sont extrêmement larges et variés, typiquement, effectivement, nous, sur certaines verticales du produit, ça vient mettre des choses gratuites sur le marché. C'est pour ça que, par exemple, nous, on a adapté notre business model pour lancer une offre gratuite qui permet à des toutes petites entreprises de gérer leur architecture des jobs et des emplois gratuitement dans Palm au lieu de le faire dans des fichiers Excel ou au lieu juste de générer une fiche de poste par-ci par-là sur ChatGPT.
Ah ben c'est génial. On mettra le lien effectivement dans les notes de l'épisode parce que c'est super pour découvrir aussi la solution. Tu prends souvent la parole sur LinkedIn et notamment pour parler de développement des compétences, bien sûr, sur le leadership aussi. Et j'ai vu que vous aviez lancé un partenariat récemment avec Prometheus.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire de quoi il s'agit?
Oui, alors effectivement, on a participé à un consortium d'acteurs qui sont dans la HR Tech, dans les Ed Tech, donc Education, et en tout cas un ensemble d'acteurs qui travaillent sur la matière compétences, skills, et on a remporté un projet au niveau européen qui vise à créer une infrastructure européenne souveraine, au sens data du terme, souveraine et donc avec des acteurs qui sont en Europe et qui eux-mêmes sont indépendants et souverains, et qui permet de créer, comme on l'avait fait sur le passeport santé au niveau Europe, l'idée c'est d'avoir une infrastructure qui permette de faire circuler la donnée compétences, donc skills, au niveau européen, entre des écoles, des universités, des organismes de formation, des employeurs, et de permettre demain à des travailleurs européens de pouvoir finalement avoir un socle commun de traduction et d'utilisation de leurs données compétences.
D'accord. Alors, je suis pas sûre de comprendre les implications. Ça veut dire quoi? Quand t'es étudiant, tu vas pouvoir. Ça veut dire que si tu vas te faire recruter dans un autre pays, par exemple, les personnes vont directement pouvoir accéder à ces compétences-là, ou tu vas pouvoir avoir des acteurs qui vont récupérer ces données. Ok. D'accord.
Exactement. En fait, d'avoir un mapping global de à la fois pour les gouvernements de bien comprendre par exemple quels sont les emplois, quelles sont les compétences qui sont requises dans les emplois, dans les job offers, dans les trainings qui existent pour les étudiants et les travailleurs de manière générale, d'avoir effectivement une plateforme unique qui leur permette à la fois de trouver des emplois autour d'eux, de pouvoir candidater à des jobs potentiellement, d'avoir ce socle commun pour les organismes aussi de formation, pour les entreprises et puis pour tout citoyen européen qui est simplement curieux de comprendre, par exemple, quelles sont ses compétences pour candidater à un nouveau job, quand même très orienté secteur tech et digital.
Ouais, quand même. Justement, alors si c'est une bonne transition, parce que il y a une question que je t'ai pas posée sur le moment, mais cette question de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans la sphère du grand public pose la question quand même de l'acquisition de ces compétences. Alors déjà pour la jeune génération, mais aussi pour ceux qui sont déjà sur le marché de l'emploi. Et ça, pour moi, c'est une vraie question, notamment. Toujours par mon prisme de la place des femmes, hein, parce qu'on voit, il y a déjà quand même une légère différence dans l'usage de ChatGPT. Il y a surtout une grosse différence d'un point de vue générationnel, puisque c'est surtout les moins de 34, 30 ans qui utilisent ChatGPT et moins au-dessus. Donc, quel est ton avis là-dessus? Qu'est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a des risques? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, moi, je dirais que je pense une des compétences qu'il va falloir qu'on développe toutes et tous, hein, quelle que soit notre génération et notre âge, c'est effectivement de pouvoir se former rapidement aux nouvelles technologies. Effectivement, ChatGPT, quand c'est arrivé, ça a permis de vraiment bousculer le marché et tout. Aujourd'hui, je disais l'autre jour une étude qui disait que plus de 50% des étudiants utilisent une IA pour préparer leurs cours, pour préparer leurs devoirs, pour faire des présentations. Et effectivement, il y a deux façons de voir ça. Il y a la façon plutôt fataliste, de dire bah, qu'est-ce qu'on va faire de cette génération? Et celle qui se dit bah, c'est super s'ils ont compris que pour gagner en productivité, ils pouvaient utiliser des IA et des outils qui leur permettent d'aller vite et de faire vite, c'est top. Le paradigme peut-être qu'on a connu jusque-là où effectivement il fallait chercher l'information, bah, l'info aujourd'hui devient une commodité. Et c'est top d'avoir la compétence de trouver le plus vite possible une donnée. Enfin, donc oui, et si on reprend, donc forcément, c'est les étudiants d'aujourd'hui qui vont arriver sur le marché du travail dans les 2 à 5 prochaines années vont forcément interagir différemment avec l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise qui demain ne va pas leur permettre d'utiliser ces outils dans leur quotidien pour améliorer leur productivité, forcément, ils vont pas forcément s'adapter à ce type de contexte. Et donc, je pense qu'en tant que professionnel, nous sommes aujourd'hui dans le marché du travail, on doit absolument appréhender ces outils, savoir les utiliser. Ça peut nous faire gagner énormément de temps avec toutes les précautions qu'on peut mettre autour, évidemment. Voilà. Donc, je pense que c'est au contraire une bonne chose. Mais il faut aussi s'adapter à toutes ces évolutions technologiques et en développant d'autres compétences certainement plus créatives, qui concernent l'intelligence émotionnelle, qu'une IA ne peut pas apporter.
Ouais, absolument. Mais et d'ailleurs, donc ça veut dire, bon, en gros, ça finalement, ça va être transféré probablement dans le socle des compétences communes dont tu parlais initialement. En tout cas, les entreprises ont quand même intérêt à exploiter le potentiel, tout en mettant en place quand même un cadre d'utilisation, parce qu'il s'agit pas de faire n'importe quoi, n'importe comment, et des initiatives comme Prometheus, c'est super parce que ça permet aussi de situer un cadre, notamment pour l'utilisation des données. On voit,
C'est ça.
il y a plein d'appréhensions par rapport à ça, hein. Je crois que les Européens sont assez éduqués sur le sujet du partage des données, qu'est-ce qu'on va en faire, etc. Et en effet, il y a cet enjeu de, notamment bah, pour les services RH, alors eux peut-être déjà de se former, et puis après de faire en sorte que tous les collaborateurs au moins soient acculturés. C'est
Exactement.
un gros, enfin ça bouleverse pas mal hein, quand même les.
Ouais, carrément. Carrément, carrément. Ça
T'as
bouleverse pas mal, en
déjà des
effet.
discussions là-dessus avec tes clients et clientes
Non, moi je pense que le point principal, c'est déjà de se dire bah, qu'est-ce qui existe sur le marché d'un point de vue IA? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Je pense qu'il y a encore un peu d'évangélisation sur le ROI de l'IA. On peut aussi avoir parfois des appréhensions. Est-ce que l'IA va un jour me remplacer?
Alors, on va peut-être en venir à ton parcours parce que on a beaucoup parlé de d'IA et de un peu de business, mais je voudrais revenir sur ce qui t'avait poussé au départ à faire du conseil après tes études d'ingénieur. Parce que tu l'as dit, t'avais bah, ces études où tu étais dans les rares femmes à y être, et puis tu rentres dans le conseil après. Est-ce que voilà, est-ce que c'est quelque chose que tu avais raisonné, choisi? Est-ce que tu regrettes d'être passé par là? Qu'est-ce que ça t'a apporté?
Regretter absolument pas. J'ai adoré mon parcours dans le conseil parce que j'y ai trouvé ce que j'étais venue chercher, à savoir une diversité de projets, de missions, d'environnement, de culture, de pouvoir aussi voyager, travailler pour des clients en France mais aussi à l'international. Donc non, c'est vraiment un environnement extrêmement stimulant, aussi extrêmement challengeant, hein. On travaille beaucoup, on avance sur plein de sujets, mais très formateur, vraiment très formateur.
Et
À
à un
la
moment,
fois, oui.
excuse-moi, non, non, vas-y, termine.
Non, mais juste pour compléter, effectivement, on vient à la fois développer des compétences d'analyse, de synthèse, des compétences aussi d'écoute active, de compréhension de l'autre, des problèmes de l'autre et comment on peut l'aider à résoudre bah, ses problèmes. Et je trouve que bah, tout ce qu'on peut développer dans le conseil, bah, on peut l'utiliser quand on est entrepreneur, évidemment. On fait face à plein de problèmes du matin au soir. Et avoir développé cette mécanique de trouver des solutions aux autres, ben, l'idée, c'est qu'on puisse se l'appliquer à soi-même.
Ça, tu l'avais calculé, tu savais à
Pas
un
du tout.
moment que tu allais. Pas du tout, d'accord. Alors, comment c'est
Non, non.
venu
En fait, je savais que j'avais envie d'entreprendre, mais pas en sortant d'école. Effectivement, le conseil, voilà, m'offrait cette diversité des missions et des environnements. Et puis voilà, à un moment, voilà, je me disais, là, ça y est, c'est le moment d'y aller. Et en plus, j'avais constaté, voilà, que les entreprises qu'on accompagnait avaient du mal à cartographier les compétences, à bien comprendre les forces et les points de développement des collaborateurs. Et effectivement, voilà, c'était le timing.
l'idée qui était derrière, donc c'est toi qui l'as portée, tu t'es entourée rapidement de tes associés, comment ça s'est passé?
Oui, en effet, en fait, au début, quand on a démarré, on était plutôt sur un besoin de mapper les compétences d'experts indépendants. Et
Ah,
qu'on
d'accord.
mettait en relation avec des entreprises pour des besoins ponctuels, des missions d'accompagnement, enfin, des opérationnels qui ont vraiment été sur le terrain. Et assez vite, on a été sollicité par des entreprises qui nous disaient, mais votre plateforme, est-ce qu'elle est disponible en marque blanche ou marque grise pour nous en interne, parce qu'on n'arrive pas à mapper nos collaborateurs. Et donc là, on se dit, en fait, le marché, il est beaucoup plus large que ce qu'on avait initialement ciblé. Et les entreprises ont du mal déjà à mieux connaître leurs collaborateurs internes. Et donc très vite, voilà, mon associé, directeur technique, est arrivé dans l'aventure. Et on a passé donc cette période de R&D où on utilisait aussi la solution, donc c'était vraiment une à la fois de la R&D mais de l'usage aussi opérationnel de la plateforme. Et puis ensuite l'équipe s'est agrandie avec l'arrivée de notre late co-founder et l'équipe aujourd'hui, ouais.
Que Palme recrute juste pour inciter ceux qui seraient intéressés à d'aller voir sur le site.
Alors, on recrute, mais pas beaucoup de profils. On est dans un contexte de prudence, hein. Je pense que c'est un contexte qui est connu maintenant de la part de toutes et tous. Effectivement, voilà, sur les profils qu'on va rechercher, ça va être plutôt des profils sales et customer success.
D'accord. Ok.
Voilà.
Bon, bah, à bon entendeur, salut.
Ouais, carrément.
Non, sur
Carrément.
un sujet, très très passionnant. Pour compléter les questions, donc un peu plus personnelles, j'ai cette petite question que j'aime bien poser. C'est si tu pouvais revenir en arrière pour te donner un conseil, ce serait pour te dire quoi et à quel moment de ta vie?
C'est une super question. Je l'avais pas préparée celle-là, mais en tout cas, ce qui me vient comme ça naturellement, C'est oser plus vite. Voilà. Je dirais ça. Je ne saurais pas le situer dans le temps. Je dirais, ouais, peut-être en sortie d'école, d'ingé, je ne sais pas. Comme ça, je me
Ouais,
dis, c'est ça qui me vient.
tu aurais pu te lancer finalement en sortie d'école, tu penses, en
Non, je.
entrepreneuriat, non?
Non, je pense pas en sortie d'école, mais peut-être après 3-4 ans,
Ouais.
3-4 ans d'expérience, peut-être. Ouais, je sais pas. Mais après, on peut pas revenir en arrière, donc
Non, on peut pas, c'est vrai.
ouais,
Mais
non, non.
ouais, ça permet de passer les messages peut-être justement
Exactement,
sur les
ça
plus
c'est
jeunes
oser.
générations.
Exactement, c'est vraiment oser, oser. Quand l'envie nous prend, il faut oser.
Est-ce que tu as un livre que tu aimerais recommander à notre audience?
Il y a un livre que j'ai lu l'été dernier et qui m'a marqué. D'ailleurs, j'ai même fait un post LinkedIn sur le livre. Le livre s'appelle Kilomètre zéro, le chemin du bonheur, qui a été écrit par Maude Ankawa et qui parle, voilà, d'une directrice financière dans une start-up qui a une vie Fast Life à Paris et qui apprend qu'une de ses meilleures amies est atteinte d'un cancer stade de terminale et qui doit l'aider à s'en sortir en allant chercher un livre dans lequel il y a une façon de la guérir qui se trouve au Népal. Voilà, j'en dis pas
D'accord,
plus.
waouh, ouais, c'est
Ouais,
génial.
non, c'est incroyable. Plein de rencontres dans ce livre, donc plein de rencontres d'expériences assez bouleversantes. Et l'idée, c'est derrière de dire quels sont les secrets du bonheur profond, de la confiance en soi. Voilà un peu, j'en dis pas plus, mais vraiment un livre que je recommande beaucoup.
Ça fait envie, en tout cas. Est-ce qu'il y a une émission sinon que tu aimes bien et que dont tu veux nous parler?
Une émission télé, c'est ça? Non. Émission, non.
N'importe, podcast, vidéo, télé,
Ouais,
série.
podcast 1 que tout le monde connaît, c'est évidemment Génération Do It Yourself, parce que on a plein d'histoires d'entrepreneurs qui sont assez touchantes, assez authentiques. Ouais, c'est un podcast que j'aime bien. Et puis le tien?
Merci, merci. On n'est pas tout à fait au même niveau avec Mathieu, Stéphanie et moi, mais bon. Est-ce qu'il y a une figure qui t'inspire, voilà, dans ta vie? Alors, ça pourrait être une figure tech, mais c'est pas obligatoirement le cas.
Bah écoute, forcément plein. forcément plein, moi je dirais dans les personnes qui, si je parle de femmes, qui sont inspirantes et qui m'inspirent encore aujourd'hui, et je pense que je suis pas la seule à être inspirée par elles, ben, il y a évidemment Simone Veil qui a complètement réinventé plein de choses, la cause de la femme, allier le côté pro, perso, elle est juste exceptionnelle. C'est vraiment une femme qui m'inspire énormément, notamment voilà, pour son combat pour les femmes. Il y a Michelle Obama aussi, que je trouve assez intéressante, assez inspirante. J'ai vu son bouquin Devenir, où elle retrace l'histoire de sa vie, de sa vie de famille, de sa rencontre avec Barack, de voilà, de leur vie de famille et de couple, et de sa réussite aussi personnelle dans un contexte où son mari est juste brille à côté d'elle. Donc ça, c'est pareil, une
Elle a
des
bien
femmes.
brillé aussi, elle brille beaucoup aussi.
Ouais,
C'est
c'est
ça qui
vrai, c'est vrai.
est incroyable aussi.
Exactement. Et après, effectivement, les autres femmes que moi je trouve assez incroyables, notamment en France, Tatiana Jamma, vraiment super, à la fois pour tout ce qu'elle a fait, pour ses succès, à la fois en tant qu'entrepreneur, et puis encore à une époque où il n'y avait pas forcément beaucoup de femmes entrepreneurs, donc je trouve ça juste top. Et puis aussi avec Céline Lazorte, leur engagement en faveur des femmes, avec ça, avec le fonds qu'elle a lancé. Je trouve que c'est des nanas qui sont exceptionnelles. Hein. Elles ont réussi, elles s'engagent pour que d'autres à la fois soient inspirées, mais en même temps aient les moyens qu'elles n'ont pas forcément eu, ou en tout cas qu'elles ont dû avoir en se battant très très fort. Et puis après, en entrepreneur homme, bah pareil, il y en a plein, mais moi j'aime bien l'histoire de Xavier Niel. Voilà, j'aime bien ce qu'il fait aussi, à la fois en termes de give back, dans comment
Avec l'école
il a,
42, avec tout
ouais,
ça.
c'est ça, comment il a réussi à mettre beaucoup beaucoup de dynamique dans l'écosystème et participer à l'écosystème tech. J'aime bien aussi Roxane, la head of de la directrice de Station F, qui gère tout ça de façon assez merveilleuse. Voilà, mais je veux, la liste est très longue, hein.
C'est clair, c'est clair. Je t'ai pas demandé quelle est la. Alors, on l'a deviné, mais est-ce qu'il y a. Tu veux parler de la cause qui te tient à cœur ou en reparler?
Évidemment. Oui, c'est tout ce qui est relatif à la mixité, à la diversité, à l'inclusion. Je parle pas que hein, de la diversité, de l'inclusion des genres, mais de tout finalement. Hein. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on parle de plus en plus, par exemple, des talents qui sont neuroatypiques. Et c'est un terme, je pense, que moi, quand j'ai commencé à travailler en parlait pas. On parle en effet des personnes qui sont en situation d'handicap. Il y a les quotas et je trouve ça super. Donc ça fait partie aussi d'une autre forme hein, de diversité et comment on peut inclure ces gens-là dans la société, dans le monde du travail. Voilà, c'est aussi les diversités d'origine. Voilà, enfin, vraiment tout ce qui touche à la diversité dans toutes ses formes. Voilà, c'est des causes qui me tiennent à cœur. Je sais qu'il y a des solutions et des acteurs sur le marché qui vont à la fois travailler sur tous les leviers de diversité et d'inclusion. Et moi, je suis par contre convaincue que c'est pas une solution qui va répondre à ces enjeux, hein. Et je suis vraiment profondément convaincue qu'il faut avoir la conviction et le sponsorship des dirigeants. Si on n'a pas le sponsorship, l'engagement, une feuille de route sur laquelle eux-mêmes s'engagent, c'est très compliqué. Voilà, parce que effectivement, ça permet voilà d'avoir un discours qui soit authentique, un vrai discours. On ne peut pas confier ça juste à l'équipe diversité et inclusion, sans moyens, sans sponsorship. On n'y arrive pas après. Donc ouais, moi je pense que une des clés là-dessus, c'est vraiment que des acteurs hein, qui font ça très bien. Il y a des acteurs qui font de l'accompagnement spécialisé dans les sujets diversité et inclusion. Et il y a énormément d'études qui ont démontré que les entreprises qui ont un fort taux de diversité, bah forcément, elles sont plus performantes. J'ai pas les études. D'ailleurs, j'ai fait un post sur LinkedIn sur le sujet de diversité. Il y avait quelqu'un
On va le retrouver, on
qui
va le retrouver.
oui, c'est ça, qui m'avait challengé sur oui, mais d'où sortent ces chiffres? Bon, les études sur le marché, évidemment, il y en a énormément. Chacun peut les interpréter et les lire à sa façon. Mais ce qui est certain, c'est une certitude, c'est que les entreprises qui ont su s'entourer pas de clones, mais de personnes qui sont différentes, bah forcément performent mieux. Et ça, en effet, il faut qu'il y ait un engagement fort pour pouvoir y arriver.
Comment vous faites, vous, chez Palm, parce que sur les sujets toujours pareils de, tu vois, des équipes techniques, par exemple, en plus vous êtes sur des sujets d'IA, etc., c'est, on le sait, c'est quand même un challenge parce qu'il y a un pool de candidates et même en termes de diversité également qui est réduit. Donc, c'est quelque chose qui vous y arrivez.
Typiquement, nous, on a lancé une offre il y a quelques mois sur un profil développeur et on a reçu deux candidatures féminines.
D'accord. Et ouais, vous l'aviez volontairement fait inclusive avec voilà,
bien
développeurs,
sûr,
développeuses.
bien sûr, complètement,
Ouais.
complètement. Et effectivement, c'est très bon. Après, c'est sur des sujets de data science, donc il y a encore moins de
Ouais.
profils féminins sur ces sujets-là. Mais effectivement, je pense qu'il y a deux aspects. Hier, je participais à une conférence et la personne qui animait ça disait, il y a des études, il y a des statistiques qui ont suivi typiquement des enfants à l'école et typiquement sur les sujets de négociation. Quand ils ont analysé les enfants à l'école, bah, en fait, les garçons avaient 55 à 60% du temps de parole en classe. Donc, si on se dit à l'âge de 5 ou 6 ans, les garçons prennent ou on leur donne plus, enfin, après, c'est pas volontaire, hein, mais un osent plus, prennent plus, on leur donne plus la parole, bah forcément, demain, ils vont avoir le monde devant eux, ils vont avoir plus de
Ouais.
possibilités. Il y a eu aussi tout ce qui concerne la réforme de l'éducation nationale. Bon, bref, on va rentrer dans ce type de débat. Mais je pense vraiment qu'il y a un sujet au niveau voilà, de l'éducation nationale, de la jeunesse, quand on est jeune, qu'est-ce qu'on apprend en tant que fille, en tant que garçon. Et puis ensuite, il y a évidemment le monde professionnel, il faut sensibiliser tant les femmes que les hommes, parce que demain, un manager qui va recruter dans son équipe, il faut qu'il soit aussi conscient que, ben, en fait, il ne s'agit pas de dire on est tous pareils, en fait, on est différents, mais il faut qu'on soit traités de la même façon. C'est ça la différence. On ne peut pas dire que le cerveau d'une femme fonctionne de la même façon que le cerveau d'un homme. C'est pas vrai scientifiquement. Mais en effet, si on a conscience voilà, l'idée, c'est de pouvoir évaluer la personne. On revient à notre sujet de compétences,
Oui.
hein, du début. Bah, ça permet au moins d'avoir un socle qui est rationnel, qui est objectif. Et je lisais pareil une étude qui a été faite et qui disait que on aura l'égalité des salaires, je pense, d'ici 2082. Je sais pas si tu l'as vu aussi. Donc
Ouais, il y a eu
autant
des
dire
messages qui sont passés là-dessus, ouais,
Ouais,
c'est
donc
terrible.
autant dire que, en tout cas, moi, j'y serai probablement pas et voire certainement pas. Mais je me dis, voilà, pour nos filles, pour les jeunes femmes d'aujourd'hui, on espérerait quand même que ça aille plus vite, quoi.
Et en tout cas, la transparence des salaires aide, en tout cas, enfin, c'est bien qu'il y ait ces indicateurs qui soient publiés à tous les
Absolument.
niveaux, au niveau de l'Europe, au niveau du gouvernement, au niveau d'associations
Exactement.
qui font, ou
Ouais.
de think tanks qui font un super boulot pour, et puis
Ouais.
de boîtes comme 15Tech, voilà, qui publient
Oui. Ouais,
régulièrement des
Caroline.
infos là-dessus. On sait que la
Exactement.
transparence est pareille pour les compétences. Donc, écoute, en tout cas, merci mille fois. Juste, est-ce que tu
D'accord.
as quelque chose à ajouter sur ton actualité? J'ai vu que tu faisais un salon bientôt, mais est-ce
Oui.
qu'il y a voilà, une nouvelle que tu veux partager?
Bah, écoute, on a pour toujours vraiment répondre aux besoins les plus urgents, les plus prioritaires des équipes RH, des entreprises aujourd'hui. On a lancé en fin d'année une offre, voilà, une palm free qui permet de pouvoir gérer, créer, générer les offres, les fiches d'emploi, les fiches métiers, les fiches de poste, de pouvoir rattacher ça à des compétences pour faire gagner un temps incroyable aux équipes RH, d'ailleurs très souvent féminines. Et donc d'arrêter d'utiliser des fichiers statiques type Excel. Donc voilà, si un maximum d'équipes RH pourraient y avoir accès, on aurait voilà, atteint une partie de notre mission. Et en même temps, on a lancé une offre qu'on a appelée Palm Starter, qui a été vraiment pensée comme un outil de productivité pour les équipes RH. Un peu comme le CRM pour les sales, bah, Palm pour les équipes RH, pour les aider en plus de gérer les référentiels des emplois et des compétences, de pouvoir mapper, cartographier les compétences de leurs collaborateurs, de pouvoir importer l'ensemble de leurs données, cartographier les écarts de compétences et les aider à faire les bons choix en termes de plan de développement, plan de formation et à rendre les actions de développement RH encore plus pertinentes, encore plus efficaces et commencer à agir pour fidéliser leurs collaborateurs. Voilà les deux actus. Donc
Super.
une qui est gratuite et c'est un service qui est offert aux équipes RH des petites entreprises et puis un qui permet de faire gagner du temps et de la productivité aux équipes RH également.
Bah, c'est hyper intéressant parce que d'autant que tu vois, je me dis ça doit être quelque chose de bien à mettre en place plutôt pas trop tard, justement pour avoir les bons réflexes au moment où tu étais en train de
Carrément.
scaler et là tout d'un coup t'as tellement de collaborateurs que tu n'arrives plus à gérer. Donc toi, ta reco,
Exactement.
c'est quoi? C'est de commencer dès que qu'il y a quoi, 15-20 collaborateurs, quelque chose comme ça.
Exactement. Exactement, dès qu'on commence à être sur voilà 15-20 collaborateurs, de passer par la version free, donc qui est gratuite, hein, voilà, de pouvoir bien structurer son référentiel et nous on aime bien être dans cette logique de progression permanente. On sait que les entreprises peuvent pas déployer des plateformes comme Palm dès le début sur l'ensemble des collaborateurs, parce que ça nécessite quand même un niveau de maîtrise et de maturité RH qui est certainement plus avancé. Mais l'idée, c'est de se dire, bah, dès qu'on a 15-20 personnes au sein de l'équipe, c'est cool aussi de pouvoir leur mettre en place un outil qui les aide pour structurer tout ça. Et l'autre nouveauté, Aurélie, c'est qu'on lance notre propre outil d'entretien annuel et entretien professionnel.
Ah, canon.
Ouais, non, ça va être hyper cool parce que très souvent, on a des équipes RH qui nous disent, mais pareil, on n'a pas encore digitalisé ça, on aimerait pouvoir le faire de façon plus moderne, faire le lien avec les compétences. Et donc, ils pourront, en effet, le faire dans Palm. Et pareil, toujours dans cette logique de mission, d'avoir de l'impact pour toutes les entreprises qui ont jusqu'à 2 salariés, le module d'entretien annuel sera gratuit.
Canon. Bon, bah écoute, c'est des bonnes
Voilà.
nouvelles tout
Ouais,
ça.
carrément.
Bravo en tout cas de faire
Merci.
évoluer et de penser aux petites boîtes qui sont tes clients. Non, mais on voit bien. C'est tes clients de demain aussi pour la version payante, bien sûr. Mais en tout cas, c'est des beaux outils qu'on peut tester maintenant gratuitement. Donc,
Carrément.
merci pour ça.
Merci à toi.
Ella Atmani nous a apporté un éclairage sur ce que l'intelligence artificielle peut apporter dans le domaine des RH si elle est bien employée. Je retiens notamment que la solution proposée par Palm peut éviter les biais de part et d'autre dans la promotion des collaborateurs. Et ça, je trouve que ça va dans le bon sens parce que les femmes ont trop souvent tendance à se sous-estimer. Dans 15 jours, nous nous retrouvons pour un autre témoignage d'une femme de l'IA. Et si tu veux t'informer sur ce domaine, sache que je publie pas mal de contenu sur mon profil LinkedIn et sur le compte Instagram Tech Lipstick Co. Je vais continuer parce que ce sujet est très important et que pour moi, il ne faut pas creuser l'écart entre hommes et femmes sur la prise en main de l'intelligence artificielle. À très bientôt, porte-toi bien et n'arrête jamais d'explorer.